Bekle milisi.
Auguste Assemblée, recevez mes salutations. Pasteur, recevez mes salutations aussi et mes remerciements pour m'avoir associé à ce débat. Je pourrais avouer que le pasteur Dalo et quelques-uns sont parmi les serviteurs de Dieu que j'apprécie et j'admire parce qu'ils apportent une touche de modernité à l'Église. L'Église n'est pas figée, quelque chose qui évolue avec le temps et l'esprit de notre environnement et de notre siècle. Et quelques-uns ont compris cela, parce que les mentalités ont évolué et la façon de s'adresser et de mener le peuple de Dieu doit s'adapter aussi à l'évolution des mentalités et de la culture. Et je tenais à le dire. Merci encore une fois, pasteur. Mais nous ne pouvons pas commencer sans remercier celui qui est au-dessus de tout ce qui permet que ces choses arrivent. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour partager les connaissances que tu as mis en nous. Personnellement, je n'ai pas mérité plus qu'un autre pour être ici devant, mais c'est par ta grâce que tu as mis ces connaissances en moi. Et c'est aussi par ta grâce que nous nous trouvons en ce moment réunis pour ce partage. Daigne me conduire, que je dise ce que tu veux qu'il soit dit en ces lieux. Et que les oreilles entendent l'enseignement que tu veux porter et en profitent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'ai intitulé mon intervention dans l'esprit de la journée et de la rencontre. Je l'ai intitulé « Les ennemis de la longévité dans le ministère ». Et en sous-titre, j'ai mis « Aspects médicaux ». La longévité dans le ministère exige l'intégrité physique, mental, mais aussi la force spirituelle. Dans notre vie de chrétien, nous tendons et nous voulons que le spirituel marche et se développe plus que les deux autres, l'âme et le corps. Mais il ne peut pas se séparer de ces deux autres. Et ils sont tellement interdépendants que lorsque il y a un mauvais fonctionnement dans le corps ou dans l'âme, l'esprit aussi peut s'en ressentir et inversement. Lorsque nous ne savons pas quel est le plan de Dieu dans la conduite des choses de l'univers, mais lorsque dans ce plan, il vous donne une mission, une vision, il donne aussi la provision, c'est-à-dire les moyens pour accomplir cette mission. La gestion de la provision dépend de votre sagesse, de votre intelligence et de vos connaissances scientifiques. Je voudrais ici vous référer à Proverbe 3, 19, qui dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel, c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » Dans d'autres versions, connaissance est remplacée par science. C'est pour ça, parfois, je suis un tout petit peu irrité quand les gens pensent que la science n'est pas de Dieu et qu'ils la mettent dans le fourre-tout de tout ce qui est du diable. Mais la Bible le dit bien, il a créé le monde par sa sagesse, il a utilisé l'intelligence et il a mis aussi la science. De ces trois, Dieu donne la sagesse certainement. Mais pour l'intelligence, il en installe les structures dans l'individu qui vient d'être créé. Donc, dès la conception, il y a déjà en nous des structures de l'intelligence, les supports de l'intelligence. Mais il faut nourrir ces structures et c'est la science qui va s'en occuper. C'est l'ensemble de ces connaissances sur l'univers acquises par la révélation divine ou par l'observation de l'environnement ou par l'expérience, les essais et les erreurs. Donc la science est enseignée, elle demande un effort pour l'acquérir, mais toutefois, elle exige la sagesse pour être réellement utile. On dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est par la science que nous avons les connaissances sur le fonctionnement de notre corps, du corps humain. Et c'est cette partie de l'être qui est concernée par mon intervention. Ce sont les connaissances scientifiques ou la démarche scientifique qui a amené à la connaissance du corps. Mais la science reconnaît aussi ses erreurs. Elle peut aller croyant que c'est la vérité. Elle tâtonne à tout type auto, et puis rentre, dit non, 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 ce qu'on a affirmé il y a 5 ans là, c'était pas tout à fait ça. Voilà. C'est pour ça que il ne faut pas s'éloigner de la sagesse de Dieu, même lorsqu'on est un scientifique. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut dire du corps? Ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement du corps, parce que nous devons aboutir à savoir qu'est-ce qui peut interférer sur la longévité du corps dans l'exercice du ministère. En gros, le corps humain est divisé en 2 systèmes. Le système volontaire et le système involontaire, que nous médecins nous appelons le système parasympathique. Le système volontaire, c'est celui par lequel la volonté, votre volonté, oblige le corps à agir d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous voulez ouvrir la porte, vous décidez d'ouvrir la porte, vous donnez un ordre, les muscles se mettent en marche, ils ouvrent la porte. Vous voulez écrire, vous donnez l'ordre, vous prenez le stylo, vous enlevez le capuchon et vous vous mettez à écrire. Ça, c'est le système volontaire. Mais à côté de ça, il y a le système involontaire ou parasympathique, où les choses se passent sans le concours de votre volonté. C'est comme lorsque vous êtes en train, vous avez tous des battements de cœur actuellement, mais ce n'est pas votre cœur qui commande ces battements. Ils s'installent dès le 4e mois, la 4e semaine de vie, et le cœur se met à battre toute votre vie jusqu'au dernier jour. Pendant tout ce temps, votre volonté n'a rien à faire. Vous respirez. Vous digérez. Les choses que vous, pour ceux qui ont mangé ce matin, que vous avez mangé ce matin, sont en train d'être digérées. Le corps est en train de retirer les éléments essentiels, mais votre volonté là-dedans, elle n'a rien à voir. Ce n'est pas vous qui commandez. Ça se fait automatiquement. Et dans ce système, vous avez donc le système circulatoire, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, comme nous l'appelons, dans la sécrétion des hormones, le système respiratoire, je l'ai dit, le système digestif, qui ne demande pas votre avis pour fonctionner. Mais il fonctionne selon un principe, selon un ordre que Dieu a déjà mis en place en chacun de vous. Et donc, c'est relié à ce que nous appelons l'horloge biologique. L'horloge biologique que certains ont essayé de disséquer et de retrouver dans le cerveau, mais jusqu'à ce jour, on ne sait pas où ça se trouve. On a coupé le cerveau en plusieurs segments. On dit, bon, ça peut se trouver dans les diencéphales, ça peut se trouver au niveau de l'hypothalamus. On suspecte, mais on n'a pas encore mis le doigt sur l'horloge, le fondement cellulaire de l'horloge biologique. Mais elle existe. Et qui dit horloge biologique? Vous savez tous les mauvais côtés des horloges et des montres. Ça peut prendre de l'avance, ça peut prendre du retard, ça peut se dérégler. S'il fait très chaud, si vous avez une montre de moindre qualité, les éléments se chauffent, ça se bloque, ça marche plus lentement. Quand vous allez en climat froid, ça marche un peu plus vite. Donc, l'horloge suppose donc des variations. Et ces variations peuvent influencer alors le fonctionnement du système involontaire. Or, le système involontaire est déjà pré-réglé. Il y a même, on a découvert récemment, que la vie de chaque individu est déjà programmé. On sait en moyenne qu'un homme peut vivre jusqu'aux alentours de 77 ans de manière naturelle. La femme, 5 ans de plus. Mais le programme se trouve déjà dans la cellule. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de joie en lisant dans la Bible quand, lorsque Dieu dit « Je te connaissais alors que tu n'étais qu'une masse informe. » Aujourd'hui, la science peut vous dire que lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule et que l'individu est formé, dans la première cellule-là se trouvent déjà tous les éléments de l'individu. À travers ses chromosomes, si on prend cette cellule et qu'on la dissèque, qu'on regarde les chromosomes, on peut dire « ce monsieur, il souffrira du diabète. Ce monsieur aura une taille en dessous de 1m70. Ce monsieur aura des os suffisamment pourvus en calcium. Ce monsieur ou cette personne aura des maladies du cœur. » Dans la petite cellule-là, il n'a même pas la forme d'un homme. Alors, quelle sagesse la Bible nous a apportée, et longtemps nous n'avons pas su ça. Je te connaissais alors que tu n'étais qu'une masse informe.
Oui.
Tout est dedans. Et plus encore, le pasteur l'a dit tout à l'heure et j'ai souri. Lorsqu'il parlait de la longévité et de l'âge qu'on pouvait atteindre, les cellules sont programmées comme des ordinateurs. On peut, en lisant ce qui est écrit dans les chromosomes, dire celui-là vivra longtemps, celui-là ne vivra pas longtemps. Celui-là ira au-delà de 60 ans, celui-là il n'ira pas, il n'arrivera pas. À cause de toutes ces informations qui sont déjà dans la cellule. Et la mort programmée des cellules porte un nom que vous rencontrerez peut-être en lisant, si vous lisez comme pasteur Dallo, un jour on vous parlera de l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule. Parce que chaque jour, les cellules disparaissent de notre corps sans que nous nous en rendions compte. Et c'est ça qui nous amène lentement vers le vieillissement et la fin de notre vie. Mais alors, il a dit tout à l'heure aussi, si vous êtes programmé pour mourir à 80 ans, quel intérêt avez-vous de vous détruire et mourir à 40 ans? Vous arrivez trop tôt devant le Seigneur, il va dire, mais voilà, je t'avais programmé pour 80, pourquoi tu viens si tôt? Et tu regardes, ah oui, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Il y a ainsi des maladies qui perturbe l'horloge interne, qui perturbe le programme et qui nous amène à une mort prématurée ou à un vieillissement prématuré. Ce serait très difficile de résumer tout ça. Et c'est un travail de synthèse terrible auquel j'ai dû me soumettre parce que il y a tellement à dire, tellement à transmettre. Mais d'une manière concise, j'ai épinglé 5 maladies ou 5 situations de maladies qui peuvent perturber la longévité d'un serviteur dans l'exercice de son ministère. Je les cite et puis nous entrerons dans les détails. C'est d'abord l'hypertension artérielle avec son corollaire ou ce qui lui est lié, les maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, c'est l'obésité. Troisièmement, c'est le diabète. Quatrièmement, c'est le stress ou surménage. Le stress, je vous expliquerai qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Nous parlerons aussi des cancers les plus communs. Et à la fin, nous parlerons des situations entraînant une diminution des défenses de l'organisme. Et nous terminerons par des recommandations. La pression ou l'hypertension artérielle, c'est quoi? L'hypertension artérielle, c'est la situation où vous avez une diminution de la résistance des vaisseaux qui amènent le sang dans les différents territoires de l'organisme. L'organisme est nourri, ou plutôt utilise le sang comme support de transport des éléments nutritifs ou des éléments contribuant à sa construction. Alors, le sang est pompé par le cœur, qui est un muscle très puissant. Pour vous donner une idée, vous voyez les plafonds des cliniques Ngaliema. C'est très haut. Un jour, au cours d'une intervention, le chirurgien avec lequel j'opérais a lésé par erreur un vaisseau important du cou. La pression du sang qui s'en est échappé a atteint le plafond. C'est vous dire la force avec laquelle le sang, hein, vous voyez le plafond de Ngaliema là, hein, le sang est pompé dans les artères. Alors, il doit trouver sur son passage une souplesse des tuyaux qui conduisent, donc les vaisseaux, les artères. Ils doivent être souples. Lorsque le sang pompe, le vaisseau s'élargit et puis rétrécit, continuant à prolonger le mouvement du sang vers les territoires les plus éloignés du corps. Alors, dans certaines situations, la paroi du vaisseau perd son élasticité, devient dure. Là, le cœur pompe,
Il n'y a plus d'élasticité, il y a plutôt une résistance. Alors ça peut arriver que ça pète. Alors quand ça éclate, vous avez une hémorragie localement, c'est ce qui se passe dans certaines situations au niveau du cerveau, il y a les vaisseaux les plus fragiles du corps humain. Donc quand la pression est haute, le vaisseau éclate au niveau du cerveau et provoque une hémorragie interne et vous avez la paralysie. Lorsque cet accident provient dans la partie gauche du cerveau, la paralysie se fait à droite, et quand c'est le contraire, la paralysie se fait à gauche, c'est ce qu'on appelle hémiplégie. Mais il y a aussi des situations où le vaisseau n'éclate pas, mais il rétrécit au fur et à mesure, et il se bouche, et la partie qui est alimenté par cette tranche du vaisseau, ne recevant pas de quoi vivre, finit par mourir. C'est ce qu'on appelle l'ischémie. Je faisais un effort pour ne pas trop mettre de mots de médecine, mais il y a des mots que vous... Oui, s'il vous plaît. Donc, ischémie s'écrit comme ça, qui désigne la partie qui ne reçoit pas suffisamment de sang et qui meurt. C'est ainsi, par exemple, que vous pouvez avoir une partie du pied, une partie du bras ou une partie du cerveau, parce que le vaisseau qui l'alimente est bouché, qui meurt ou ne reçoit pas du sang. Avant de mourir, ou lorsque le sang ne passe pas en grande quantité dans cette partie, il y a des douleurs, parce que la douleur, c'est le signal par lequel les parties du corps disent au cerveau que ici ça ne va pas. Alors vous avez ces gens-là ont des maux de tête très régulièrement. Alors, comment arrive-t-on à la rigidité des vaisseaux sanguins? La rigidité des vaisseaux sanguins s'installe lorsque vous avez des graisses qui s'accumulent dans la paroi ici du vaisseau, et ces graisses-là sont construites à partir du cholestérol. Le cholestérol est dégradé et constitue je voudrais vraiment éviter les mots scientifiques, mais bon, il y en a, je ne peux rien faire. Donc, l'athérome. Et cette graisse s'installant dans la paroi du vaisseau, le vaisseau devient dur comme un tuyau de la régie des eaux. Lorsque le cœur pompe, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de transmission de la pression et une résistance s'installe. Et lorsque ça va plus loin, le vaisseau, la plaque d'athérome, donc en partant du cholestérol, finit par boucher totalement le vaisseau qui, s'il mesurait 2 mm, à un moment donné, il mesure 0,1 mm. Et à cet endroit-là, lorsque le sang est pompé, il y a une pression forte qui peut donc amener à tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut également savoir? Ce qu'il faut savoir est que la pression du sang est dite normale lorsque elle est comprise entre deux extrêmes, 140 sur 90, ce sont des normes admises par l'OMS, 140 sur 90, on peut l'exprimer de deux manières, soit en millimètres de mercure, soit en centimètres de mercure. En millimètres de mercure, c'est 140 sur 90, en centimètres de mercure, c'est 14 sur 9. En dessous, la plus basse tension tolérée est de 90 sur 60. En dessous de 90 sur 60, 9,6, vous avez de l'hypotension. Alors là, vous êtes tout le temps fatigué. Au-delà de 14,9, vous avez déjà l'installation de l'hypertension. Mais la tension peut varier à différents niveaux au cours de la journée. mais tout en restant dans ces limites-là. Donc le matin, on peut vous retrouver avec une tension élevée, relativement élevée pour vous, ou plutôt basse, et l'après-midi, vous retrouvez avec une tension élevée, relativement. Mais tant que ça reste dans les limites que je viens de donner, il ne faut pas considérer que vous êtes malade. Alors, si c'est une partie du cœur ou un vaisseau du cœur qui a été frappé par un rétrécissement comme ça ou par un bouchage du vaisseau, c'est la partie du cœur qui était alimentée par ce vaisseau-là finit par mourir. Et c'est ça l'infarctus du myocarde. Donc, la partie du cœur meurt et le tissu là ne sert plus à rien, il provoque des douleurs et aussi la mort à long terme. Maintenant, pour ce qui est de savoir au niveau des profanes que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter l'hypertension, il faut habituer son corps à l'exercice physique. Il faut éviter que certaines parties, parce que l'exercice physique augmente le champ ou la surface irriguée par le cœur. Au moment où vous ne faites pas de l'exercice physique, il y a des parties du corps qui ne sont pas utilisées, elles finissent par diminuer. Et lorsque la pompe cardiaque agit, c'est juste une partie qui reçoit et ça peut augmenter la pression au niveau des vaisseaux. Donc quand vous faites de l'exercice physique, vous stimulez toutes les parties du corps et vous élargissez le champ dans lequel le sang doit être pompé et vous avez alors une tension normale. Il faut éviter des écarts d'alimentation comme la prise de sel. Je ne vais pas entrer dans les explications physiologiques, mais je vous dirai que on a constaté que la diminution de l'apport salé contribue à une meilleure gestion de l'hypertension. Et lorsque vous mangez hyper salé, vous vous exposez à faire de l'hypertension plus tard. Mais il y a toujours dans toutes ces choses, et c'est ce qu'on découvre de plus en plus maintenant, des situations qui découlent de l'hérédité. Il y a des hypertensions qui viennent chez des personnes qui n'ont aucune maladie cardiaque, qui n'ont aucune maladie vasculaire, qui n'ont même pas beaucoup de cholestérol, mais qui sont hypertendus. Nous appelons cela de l'hypertension essentielle. C'est cette hypertension qu'on retrouve le plus souvent dans la race noire. Et elle peut s'installer même chez des personnes de 25 ans, 18 ans parfois, et elle ne vient pas tardivement comme l'autre hypertension acquise. Il y a aussi des substances qui peuvent augmenter la rigidité des vaisseaux. C'est le travail que font négativement la cigarette et l'alcool. Mais je pense qu'ici, il n'y a pas de fumeur ni de buveur. Donc nous n'allons pas nous élargir ou nous étendre là-dessus. D'accord? Alors, il y a aussi à éviter dans la graisse, ou plutôt dans l'alimentation, ce qu'on appelle les graisses animales. Je vous ai dit que le moteur au départ de l'obstruction des vaisseaux ou de la rigidité des parois des vaisseaux, c'est la formation de la plaque d'athérome. L'athérome, c'est une graisse qui vient d'une autre graisse que l'on appelle cholestérol. Les graisses viennent des substances lipides, des graisses que nous avalons. Et elles ont plusieurs qualités. Il y a des graisses qui viennent des aliments végétaux et des graisses qui viennent des animaux ou de la viande. La plus mauvaise des graisses, c'est celle qui vient de la viande. Nous en reparlerons plus tard parce que au départ, l'alimentation carnée n'était pas l'alimentation première de l'homme. Alors, cette graisse est transformée, le cholestérol transforme la graisse la graisse animale est transformée en cholestérol et le cholestérol se transforme en athérome qui vient boucher les vaisseaux. Donc, lorsque vous mangez beaucoup de graisse animale, vous voyez les gens qui... la viande de porc a beaucoup de graisse. Alors, parfois, elle est très bonne. Vous coupez un bon morceau de graisse, vous l'avalez, c'est très bon dans la bouche, mais ça vous apporte beaucoup de graisse animale qui finissent, qui atterrissent dans la formation et l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance, il y a deux types de cholestérol. Le cholestérol qu'on appelle LDL et l'autre HDL. Le plus mauvais, c'est celui-ci. Le LDL qui donne un excès, lorsqu'il est en excès, provoque la formation des plaques d'athérome. C'est pour ça que lorsque vous allez au contrôle, lorsque vous ferez le check-up dont je parlerai tout à l'heure, vous demanderez qu'on dose le cholestérol dans le sang. Ces choses-là se font à partir d'un certain âge. Lorsqu'on est jeune, on vous comprend, vous pouvez oublier, vous avez l'entrain, vous avez la fougue de la jeunesse, les projets de la jeunesse, mais le corps vieillissant, à partir d'un moment donné, il faut de temps en temps passer à ces contrôles et vous demander de contrôler le cholestérol et de préciser quel est le taux de LDL et quel est le taux de HDL. Si dans votre contrôle, le LDL est beaucoup plus élevé que le HDL, sachez que vous êtes en train de marcher vers l'hypertension. Et en ce moment-là, vous prenez vos dispositions pour ne pas y arriver. D'autres situations qui amènent à l'hypertension, mais pas des mécanismes connexes, ce sont le surpoids, l'obésité, le diabète et aussi le surmédage, nous allons en parler. La deuxième situation dont j'avais à vous parler, que j'avais épinglé, c'est l'obésité. Ah, le tableau ne s'efface pas. L'obésité, d'une manière tout à fait simple, je dirais que c'est l'accumulation de la graisse dans les tissus sous-cutanés, donc sous la peau. Cette accumulation de graisse peut se faire sur le ventre. Souvenez-vous du fameux œuf colonial pour les buveurs de bière et d'alcool. Sur le ventre, sur les hanches chez les femmes et sur les fesses. Mais à un niveau plus avancé, la graisse peut s'accumuler sur tout le corps et donner la forme bouffie qu'ont les obèses généralement. Alors on s'est acharné à vouloir définir quand même à quel moment peut-on dire d'une personne qu'elle est obèse? À quel moment on peut dire qu'elle n'est pas obèse? Et on a trouvé une formule qui consiste à calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, IMC. L'indice de masse corporelle se calcule en prenant le poids de l'individu divisé par la taille en centimètres au carré. Donc une personne de 50 kilos, de 60 kilos, qui pèse, une personne de 1m60, on met 160, le carré de 160, faites le calcul, ça fait combien? Bon, alors, vous divisez, je vais m'embrouiller moi-même dans les calculs. 60. Faites plutôt la taille, prenez 1,6 au carré, 2,56. Maintenant, 60 divisé par 2,56, ça vous donne 23,43. Alors, cette personne qui a un indice de masse corporelle de 23 se trouve dans la fourchette des personnes qui ont un poids normal. Ça se réfère donc à un tableau. Je vais vous le donner, je n'ai pas assez de place pour écrire, mais vous allez retenir que lorsque vous calculez l'indice de masse corporelle et que vous trouvez un indice inférieur à 16,5, vous êtes en état de dénutrition. On doit vous amener aux urgences. Lorsque vous avez un indice de masse corporelle compris entre 16,5 et 18,5, vous avez un état de maigreur. Donc, un peu comme les Éthiopiens à un moment donné. Entre 18,5 et 25, vous considérez que vous êtes normal.
Lorsque l'indice de masse corporelle passe de 25 à 30, vous êtes dans une situation de surpoids. Le surpoids, vous serez étonné, toutes les personnes un peu enrobées dans la salle doivent être en surpoids. Faites le calcul. Moi, j'ai déjà fait pour moi. Alors, lorsque vous avez l'indice de masse corporelle entre 30 et 35, c'est en ce moment-là que l'on parle de l'obésité. Et lorsque ça va au-delà de 40, ça c'est l'obésité maladie. C'est comme les toubis, tous ces gens-là un peu, qui pèsent dans les 300 kilos. Ça c'est déjà la maladie morbide. Donc à partir de l'indice de masse corporelle, nous pouvons ainsi retrouver dans quelle catégorie placer un individu. Il apparaît aujourd'hui que dans la société moderne, des gens nantis qui mangent bien, beaucoup sont en surpoids ou bien dans l'obésité. L'obésité entraîne des troubles de circulation du sang parce que la masse des tissus adipeux, donc des tissus graisseux, constitue souvent une surcharge pour l'organisme qui doit envoyer du sang dans tous les territoires et pouvoir ainsi l'alimenter. On demande alors à la circulation et au cœur de faire un travail beaucoup plus important qu'il n'aurait dû le faire. Il peut le faire pendant un temps, mais c'est de la chair. À un moment donné, il se fatigue. Et lorsque vous demandez à un cœur d'obèse de travailler jusqu'au-delà de 60 ans, ça devient parfois quelque chose de très difficile. Et ces gens qui ont l'obésité voient leur espérance de vie raccourcir. Mais comment arrive-t-on à l'obésité? On y arrive par des écarts alimentaires généralement. Il y a des obésités qui sont héréditaires. Il y en a d'autres qui découlent de certaines maladies. Mais il y a des obésités qu'on peut éviter si on prend garde à ce que l'on mange. Tout ce que nous mangeons est transformé en sucre. Donc l'élément terminal de la digestion, c'est le sucre. Quand vous ingurgitez une certaine quantité d'aliments, dedans vous avez du sucre. La forme de sucre qui arrive dans l'organisme, c'est le glucose. Dans les aliments, il y a des lipides, donc les huiles, et il y a des protéines. Je mets tout ça au pluriel parce que même dans les sucres là, il y a plusieurs catégories de sucres. Il y a des sucres qui sont vite digérés, d'autres plus lentement digérés, etc., etc. Les fruits donnent un sucre qu'on appelle le fructose. Il y a aussi des galactoses et tout ça, ce sont des sucres. Mais l'élément final, c'est le glucose que l'organisme utilise au niveau des cellules pour son fonctionnement, pour chauffer le corps, pour le travail intellectuel. Le travail intellectuel consomme beaucoup de sucre. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous somnolez et vos performances intellectuelles diminuent aussi. Alors, lorsque l'horloge interne dont j'ai parlé tout à l'heure détecte que vos taux de sucre sont en dessous de la demande, ils peuvent activer des mécanismes qui remontent le taux de sucre. Si vous n'avez pas mangé, ils vont d'abord s'attaquer aux lipides. Ces lipides sont stockés dans le corps sous forme de graisse. Et c'est ça, la graisse dont nous parlons. D'où vient cette graisse? Elle vient du surplus de sucre que vous avez pris. Si vous devez utiliser du sucre, par exemple, pour soulever un bac comme celui-ci, vous avez besoin de 1 gramme de sucre. Mais au moment où vous mangez, vous avez mangé 10 grammes. Vous mangez 10 grammes de sucre, mais vous n'avez besoin que de 1 gramme pour soulever ce bac qui est le travail que vous devez faire. Les 9 autres grammes sont stockés dans l'organisme sous la forme de graisse. Donc, c'est stocké sous la forme de lipides au niveau du foie d'abord et ensuite dans les cellules de la graisse qui couvre tout le corps. Lorsque, en situation de crise, au lieu de soulever un bac, on vous dit non, vous devez soulever 100 bacs et les stocker là-bas. Mais vous n'avez pas mangé. L'organisme va maintenant utiliser cette graisse-là, la récupérer, la transformer en sucre de nouveau pour vous permettre de faire le travail qu'on vous demande de faire. L'autre sucre est stocké sous forme de protéines. Les protéines servent à la construction de nos muscles, de la peau et
la construction de l'organisme. Lorsque le corps, comme chez le type qui a un indice de masse corporelle de la maigreur ou de la dénutrition, il n'a pas de graisse, qu'est-ce que l'organisme va faire? Il va aller puiser dans ses muscles, détruire les muscles pour fabriquer du sucre et exécuter le travail. C'est pour ça que les personnes dans cet état-là se mettent à maigrir. Donc vous ne mangez pas assez, mais l'organisme doit vivre. Il va vous détruire vous-même, et détruire les muscles, d'où la maigreur que vous constatez chez des personnes qui n'ont pas assez de réserves de graisse. L'organisme utilise les muscles pour son fonctionnement. Voilà grossièrement les choses mises. Maintenant, l'obèse, chez l'obèse, qu'est-ce qui se passe? Il doit soulever un bac, il lui faut un gramme. Chaque jour, il mange non pas 10 grammes, mais 50 grammes de sucre. Tout ce sucre-là sera stocké quelque part. L'organisme l'envoie alors dans les masses adipeuses, dans les cellules des réserves. Et ça continue de s'accumuler. Lui, il l'ingurgite. L'organisme transforme en graisse et lui ne fait que grossir. Et comme il n'a pas de situation extrême qui lui demande de détruire cette graisse-là pour la réutiliser, il va continuer d'accumuler. C'est pour ça qu'on dit que l'alimentation joue un rôle très important dans le mécanisme d'installation de l'obésité. Il y a donc ce surplus qui nage. Alors, à quel endroit est-ce que le processus commence? C'est au niveau du foie. Il y a ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc, le foie qui est l'usine de l'organisme, lorsqu'il y a un excès de graisse, c'est d'abord au niveau du foie que ça s'installe. D'où l'intérêt, lorsqu'on fait un bilan de santé, de faire aussi une échographie du foie. Il vous dira, attention, votre foie amasse déjà beaucoup de graisse. Vous risquez d'avoir un surplus. Et évidemment, d'autres examens, mais cela, je ne vous parle que des choses qui sont dans le commun. Donc, je n'entre pas dans les finesses médicales où il faut disséquer les lipides et tout ça. C'est ce qui est vraiment utile pour vous. Donc, pour éviter l'obésité, il faut changer les habitudes alimentaires. Ne prendre que ce qui est nécessaire et utiliser également ce qui est bon ou ce qui est excessif. Il faut, en ce moment-là, respecter l'horloge biologique. L'horloge biologique nous règle de manière que entre 6h et 7h du matin, vous devez absolument manger. Parce qu'en ce moment-là, les taux de sucre sont les plus bas dans l'organisme. Et l'horloge interne vous dit mangez. Vous avez faim dans cette tranche horaire. Le deuxième moment se situe entre 11h et 14h. En ce moment-là, les sucres digestifs, les acides de l'estomac, du foie, du pancréas sont sécrétés vers le système digestif. Qui dit acide dit corrosion. Ces acides sont sécrétés, ils doivent trouver leurs éléments. Ces mécanismes se font à votre insu, c'est involontaire. La troisième tranche, c'est entre 17h et 19h. Donc, à ces trois moments, vous avez des taux de sucre tellement bas que l'organisme, s'il ne reçoit pas la nourriture en ce moment-là, est obligé d'appeler les réserves dans la graisse. Mais puisqu'on ne vous demande pas de faire cet effort, la seule chose que vous avez, c'est d'éprouver la sensation de faim ou une sensation d'étourdissement. Entre 12h et 14h, si vous n'avez pas mangé, il y a un moment où vous avez des somnolences. C'est au moment où vous avez le taux le plus bas de sucre. La solution, c'est de prendre un verre de sucré. Dès que vous le prenez, vous vous sentez un peu mieux. Mais si vous vous laissez aller, vous allez dormir pendant même 15 minutes. Après, vous vous réveillez. Pourquoi vous vous réveillez? Parce que pendant les 15 minutes, l'organisme est allé chercher dans la graisse le sucre qui vous manque. Alors, vous vous réveillez après 15 minutes. Oh, ça m'a fait du bien d'avoir fermé les oreilles et les yeux pendant une dizaine de minutes. Mais l'organisme a fait son travail pendant ce temps. Et ce type, il ne veut pas manger. Je vais chercher la graisse, le sucre dans sa graisse. Comme ça, il continue. Mais il faut pas toujours que ce mécanisme-là continue. Parce que le mécanisme va se détraquer après. On peut faire ça une fois, deux fois en passant. Autre conséquence,
c'est que lorsque l'acidité, les sucres sont sécrétés dans l'estomac, l'acide là, c'est le même acide qu'il y a dans les bactéries. Le corps se protège en sécrétant au niveau de l'estomac un mucus. Hein, c'est une substance lisse que l'acide ne sait pas attaquer. Mais c'est la même chose, c'est de l'acide chlorhydrique. Si vous sortez ce... Parfois quand vous vomissez, demandez aux mamans au début de grossesse, elles vomissent des liquides verdâtres. Si on analyse, c'est comme l'acide. Ça vous brûle ici, ça vous brûle sur la gorge parfois, quand vous avez beaucoup vomi. Mais le corps se protège parce que Dieu, dans sa sagesse, a prévu un mucus qui recouvre. Mais lorsque vous le faites depuis des années, à un moment donné, cet acide finit par attaquer la paroi de l'estomac ou de l'intestin et provoquer, dans un premier temps, la gastrite et dans un deuxième temps, l'ulcère de l'estomac qui est une plaie. C'est-à-dire, l'acide érode, creuse l'estomac, provoque une plaie qui, si elle ne peut pas, elle n'est pas soignée correctement, peut même provoquer une perforation de l'estomac. Donc, nous avons, sauf dans des cas bien connus, des jeunes, bien décidés, avec ordre, parce que même quand vous allez faire votre jeûne, vous le faites pas en désordre, vous le faites en connaissant toutes ces choses. Vous savez que, à certaines heures, vous avez votre sécrétion d'acide, du pancréas, d'insuline, qui est déjà prête. Vous devez manger. Si vous ne mangez pas, ça va détruire votre corps et disparaître. Et attendre la tranche horaire suivante pour encore être sécrété. Si ça se fait en une journée, ça peut passer. Mais si ça se fait sur 10 ans, 20 ans, ça va provoquer des dégâts. D'où la nécessité de respecter les heures des repas. Il faut pas sauter les repas. On ne fait pas de performances on ne fait pas une course aux performances dans la vie et sortir là en disant, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de manger à midi. Vous avez la nécessité de manger à midi. Vous avez l'obligation de manger à midi. Et lorsque vous dites, non, moi, le matin, je quitte la maison, je n'ai pas besoin de manger, mais vos performances au travail sont également moindres. Parce que vers 10 heures, vous avez consommé la réserve de sucre que vous avez. Et si vous n'avez pas beaucoup de graisse, et on mobilise très peu de graisse, vous êtes sur un dossier, ça n'avance pas, les idées ne viennent pas. Moi, je fais souvent des mots croisés, et les performances sont meilleures justement après le repas du matin. C'est une expérience que j'ai tentée plus d'une fois. Mais vers la fin de la journée, quand vous essayez de trouver les mots qu'il faut agencer, c'est déjà un peu plus laborieux. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas respecté vos heures de repas, vous n'avez pas assez de réserves de sucre, le cerveau ne travaille pas, il dort. La troisième maladie, c'était le diabète. Qu'est-ce que c'est le diabète? C'est l'excès de sucre dans la circulation sanguine. Les chiffres, j'ai essayé de prendre des moyennes. Lorsque vous avez la quantité de sucre qui est comprise entre 110 milligrammes pour 100 cc et 65, donc entre 65 et 110, vous avez des taux de sucre dans les limites normales. Lorsque vous allez au-delà, vous avez ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Vous avez l'hyperglycémie, c'est-à-dire l'excès de sucre dans le sang, mais qui n'est pas encore le diabète. Mais c'est déjà une prédisposition à faire le diabète. Ça devient un diabète lorsque vos reins ne supportent plus le taux le plus élevé qu'il peut tolérer. En ce moment-là, vous avez les sucres qui apparaissent aussi dans les urines. Et lorsque vous avez beaucoup de sucres qui apparaissent dans les urines, c'est ça le diabète. Donc il y a le stade d'hyperglycémie et le stade de diabète établi lorsque les urines sont bourrées de sucre. D'ailleurs, vous verrez à la différence si vous urinez, si un diabétique urine sur un arbre et vous qui êtes normal urinez sur un autre arbre, vous verrez toutes les fourmis iront sur les urines du diabétique parce qu'il y a beaucoup plus de sucre là-bas. Alors, il y a deux types de diabète. Le diabète insulino-dépendant, qui est le type 1, C'est le diabète qui peut atteindre même les enfants de 8 ans, 10 ans, et qui ne peut se traiter qu'avec l'insuline. Et l'autre diabète, celui qui nous intéresse, nous, qui apparaît avec l'âge, c'est le diabète de type 2, qui peut se traiter rien qu'avec le régime alimentaire. Alors, comment ça se passe? Brièvement, chez le diabétique, il y a un problème de faire entrer... Je vous ai dit que tous les aliments sont transformés en sucre, mais ils doivent entrer dans la cellule pour que la cellule les utilise. Pour qu'ils entrent dans la cellule, il faut de l'insuline. L'insuline est fabriquée par le pancréas. Alors, l'insuline, c'est comme le transporteur qui prend le sucre pour le faire entrer dans la cellule afin que la cellule l'utilise. Mais ce mécanisme est parfois dérangé parce qu'il n'y a pas assez d'insuline et alors le sucre s'accumule. Dans d'autres situations, comme pour le diabète de type 2, c'est la cellule qui est incapable d'utiliser l'insuline ou le sucre. Alors, il s'accumule parce qu'elle est là devant le sucre, elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas sexer. Elle n'identifie pas le sucre comme étant quelque chose de nécessaire et le sucre continue de s'accumuler dans l'organisme. Alors, pour éviter le diabète, il faut faire des dépistages précoces en faisant régulièrement le taux de sucre et le taux de sucre dans le sang et le taux de sucre dans les urines. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps imparti est en train de s'achever. Nous allons parler du surménage. Le surménage ou le stress, c'est défini comme la réponse de l'organisme à une situation d'attaque. Lorsque dans l'organisme, je vous ai dit, il y a l'horloge interne, il y a des choses qui fonctionnent sans votre volonté. Mais l'organisme est un mécanisme fait avec une telle sagesse que parfois, nous qui étudions ça, on reste plein d'émerveillement. Lorsque nous circulons là, nous devons savoir qu'on a des situations de réserve. Pour que l'organisme marche, on a besoin de sucre, mais on a besoin de l'oxygène aussi. Toutes les opérations qui se font dans l'organisme ont besoin de cet oxygène et du sucre. Maintenant qu'une bombe éclate dans le coin là-bas, la moitié de cet auditoire sera dehors sans savoir comment ils sont arrivés dehors. Parce qu'il y a une situation que l'organisme peut créer qui lui permet de faire des performances extraordinaires. Donc, en cas de danger, le cœur augmente sa puissance. Les reins sécrètent une substance qu'on appelle adrénaline, ce sont des catécholamines en fait, qui augmente, qui multiplie, qui booste la puissance des muscles et bloque la respiration. En ce moment-là, toutes les réactions dans le corps se font en l'absence de l'oxygène. Tu n'as pas besoin de respirer, mais tu es capable, dans ce court temps-là, de faire des exploits. Tu peux sauter un mur de 2 mètres. Tu peux transporter un baffle ou deux baffles comme ça. Mais c'est pour un court instant. C'est comme ça que dans les états de panique, vous voyez des gens courir. Après, vous l'arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Il est comme perdu pendant un temps et puis l'esprit revient. C'est dans cet état. C'est ça l'état de stress. Donc, l'augmentation des pouvoirs du corps pour un but déterminé, mais pour un court instant. Maintenant, les personnes qui sont soumises à des réalités de la vie normale, il faut des performances. Comme a dit le pasteur, il faut qu'ils prêchent à 14h, à 16h, à 20h. Ces gens-là sont sur des nerfs. Des gens qui ont des postes de responsabilité, on leur demande des performances dans leurs activités. Ce sont des gens qui doivent absolument travailler. Le matin, il se réveille, il dit, je dois être au travail à 8h, je laisse les enfants là-bas, je dépose madame là-bas, l'embouteillage là, je dois passer. Il est vraiment tout le temps sous pression. Ces situations de pression entraînent dans l'organisme le déclenchement des mêmes mécanismes qui devaient durer une minute, ils vont durer maintenant tout le temps. Et ce type est boosté. Dans un premier temps, ce sont des personnes très performantes et qui ont aussi une demande sexuelle très forte. Parce que les déchets
de cette situation, ce sont entre autres le cholestérol là, qui va provoquer des plaques d'athérome, mais qui va aussi contribuer à la fabrication des hormones sexuelles. Et chez l'homme, c'est la testostérone qui est fabriquée à partir du cholestérol. Donc quelqu'un qui est tout le temps sous les nerfs, il a également une demande sexuelle très forte. Au point que parfois vous pouvez arriver, lorsqu'on a parlé, tu arrives à la maison, ton épouse estime que tu es très fatigué, mais toi tu demandes encore. Elle dit, mais je croyais que tu étais fatigué. Je dis, non. Bon. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Lorsque cette situation-là dure, perdure pendant des années, des mois, des années, quelque chose qui devait durer 10 minutes, tout au plus, persiste plusieurs mois. Le cœur bat toujours comme quelqu'un qui doit faire un gros effort. Les nerfs sont sous tension. La circulation est à son point maximum. Les catécholamines sont tout le temps déversées. Il y a cette phase d'excitation qui va déboucher sur une phase de dépression. À un moment donné, l'organisme qui a fourni tous ses efforts n'est plus capable de gérer les systèmes qui ont été détraqués. C'est ça l'état de stress ou de surménage. Les premiers signes sont la fatigue intellectuelle, les oublis, l'irritation. Les gens qui sont près de la dépression sont peu tolérants, ils s'énervent pour un rien. Parfois vous vous demandez, mais pourquoi ils s'énervent? Une chose simple. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qui lui arrive? On ne comprend pas. C'est l'aboutissement d'une période de stress qui n'a pas été correctement gérée. Alors ça peut aboutir à déranger l'horloge biologique qui nous dit qu'il faut dormir autant d'heures. Combien d'heures dormez-vous? Un adulte, ici il n'y a que des adultes, doit dormir au minimum 6 heures. Il dort 6 heures. Ah, il y en a quand même, Dieu merci. Il faut respecter ces 6 heures parce que le sommeil a un but dans la vie de l'individu. C'est la phase de restauration. C'est la phase où les cicatrisations se font, où les réserves se constituent. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger après 20 heures. Parce que quand vous venez de manger à 20 heures, vous n'avez pas de bac à soulever, aucun travail à faire. Tout ce que vous avez mangé, vous allez avec dans le sommeil. L'organisme, lui, il fait son travail automatique. Il y a un surplus de sucre, je vais le stocker. Donc il va stocker, si vous mangez tardivement, tout le sucre que vous avez mangé sera stocké pendant votre sommeil, parce qu'il n'est pas utilisé. Alors, il faut respecter ces heures de sommeil. Dans la nature, regardez parfois, je crois que c'est Paul qui a dit, regardez parfois dans la nature, vous trouverez des conseils de ce qu'il faut faire. Tous les animaux dorment à 19 heures. Dorment déjà. Nous, les hommes aussi, on dormait à 19 heures. Avant l'invention de l'électricité. L'électricité a dérangé nos habitudes de sommeil. Les hormones étaient sécrétées pendant le sommeil. Remarquez que les mamans allaitent plus pendant le sommeil, pendant les heures de après minuit, entre minuit et 6 heures du matin. Parce que toutes les hormones sont sécrétées en grande partie pendant le sommeil, pour aider l'organisme à se reconstituer. Maintenant, lorsque vous détruisez les heures de sommeil, facilement, moi qui suis gynécologue, je reconnais parfois ce genre de signes chez des femmes qui ont des troubles de cycle, qui sont dus tout simplement au dérangement qu'elles ont dans la succession des heures de sommeil. Alors, vous avez le sommeil qui commence à 19h, et puis, 6 heures après, comptons 20, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, vers 2h du matin, disons 3h, vous entendez les premiers oiseaux qui commencent à chanter. C'est à cette heure-là, en principe, que nous devions nous réveiller. Mais les choses sont telles que maintenant, nous dormons. Là, nous nous réveillons 5h du matin. 5h du matin, le jour est déjà là. Moi, j'ai des appels de nuit parfois, je suis obligé de me déplacer. Quand je sors à 4h du matin, La vie est déjà là.
Chez les personnes qui ont respecté leur tranche d'horaire, c'est-à-dire les femmes qui vont acheter le pain. Et elles sont déjà debout à 4 heures du matin, elles sont affairées, pendant que beaucoup d'entre nous dorment encore. Alors, le respect de l'horloge interne est détraqué par des situations de stress. Bon, on va avancer un peu plus vite.
Il y a aussi les cancers. Les plus fréquents sont les cancers du poumon, les cancers de la prostate et chez les femmes, les cancers du col de l'utérus et les cancers des seins. Ce sont les plus fréquents. Mais les cancers sont des maladies qui, en général, il existe des cancers de la jeunesse, mais en général, ce sont des cancers qui se déclenchent au-delà de 40 ans. Donc, dès que vous avez 40 ans, mettez-vous à cœur de faire des examens de dépistage. 40 ans pour les femmes, 50 ans pour les hommes. Et c'est très facile aujourd'hui de faire le dépistage de ces cancers. Chez les femmes, on fait deux examens principaux, les frottis oncologiques, les frottis du col, qu'on répète tous les deux ou tous les trois ans. Aux États-Unis, c'est tous les trois ans. En France, c'est tous les deux ans. Alors, vous faites le frottis et vous faites la mammographie. Ces examens permettent de détecter les traces de cancer 10 ans avant qu'il ne se déclare. Et vous permet donc de réagir, parce que le cancer, dès qu'il est déclaré, ça devient difficile. Mais si vous l'avez détecté avant, qu'il est encore bien localisé, on peut le guérir. Il en va de même des troubles de la prostate, où on demande de faire un examen qu'on appelle PSA. C'est un antigène spécifique de la prostate qui, lorsqu'on le retrouve dans le sang à des taux élevés, peut vous dire, attention, cette prostate-là va vous faire un cancer. Donc, si vous passez un examen, un check-up, demandez aussi qu'on dose le PSA. Et puis, il y a les maintenant, on a l'échographie. Vous pouvez demander l'échographie du foie aussi. Les situations entraînant des diminutions des défenses de l'organisme sont des situations où l'organisme n'a pas les éléments qui lui permettent de fabriquer les outils contre les microbes. Vous savez, tel que nous sommes assis là, nous sommes agressés continuellement par les microbes et les virus qui sont dans l'air, qui sont dans ce qu'on mange et tout ça. Mais l'organisme, à notre insu, combat ces choses-là et les détruit. Pour que les réactions chimiques qui les détruisent se fassent bien, il faut ce qu'on appelle un équilibre alimentaire qui vous apporte les oligo-éléments. On dit que nous sommes poussière et que nous rentrerons à la poussière, nous sommes faits de terre. Et dans notre organisme, il se trouve tous les éléments de la terre, le cuivre, le manganèse, le sélénium, le fer, le calcium. Tous ces éléments sont dans notre organisme et chaque élément a son utilité. Par exemple, lorsque vous faites une réaction d'allergie, vous avez besoin de calcium. Si vous n'en avez pas en suffisance, vos réactions seront imparfaites. Il faut toujours une petite quantité de sélénium pour que le cerveau donne des performances accrues. Donc, tous ces éléments se retrouvent. Mais si votre alimentation ne leur apporte pas le plein nécessaire, vous aurez un déséquilibre et vous serez alors sujet à des infections répétées qui peuvent à la longue fatiguer l'organisme et un jour l'emporter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En résumé, il faut éviter la vie de sédentaire. C'est-à-dire, ndako, mosala, voiture, ndako. Ça, c'est une vie de sédentaire. Vous ne faites pratiquement pas d'efforts. Je connais même des gens. À un moment donné, j'étais de cela parce que lorsque j'arrive de la maison avec mon véhicule, je le parque juste devant la porte de la polyclinique, je sors, j'entre dans mon bureau. Quand j'ai fini, je sors, j'entre dans la voiture et je rentre. Si vous faites ça continuellement, l'organisme finit par oublier qu'il y a des parties du corps qu'il faut qu'il irrigue. Et ça contribue à la diminution de votre état de santé. Il faut donc, de temps en temps, si vous êtes obligé de vivre de cette manière-là pour des raisons professionnelles, il faut vous réserver un temps pour l'exercice physique. Le plus simple des exercices physiques, c'est la marche. Vous faites de la marche, au moins 5 km de marche chaque semaine. Il faut manger à répéter les exercices de la de... Il faut répéter le reste de l'autre. Par jour. Ce n'est pas